7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Charlie Dupiau.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Ils ont l'air concentrés, affairés sur leur plan de travail, le tablier bien noué, le regard sur l'horloge. À la télévision, le monde de la cuisine relève de l'aventure, du film à suspense, de la compétition version télé-réalité avec sa dose de mise en scène. Les émissions culinaires ont transformé les chefs en véritables rockstars. Elles ont fait de la gastronomie un fantasme qui pourrait presque paraître à la portée de tous, à condition d'être passionné et persévérant, bien sûr. Pourquoi les métiers de la cuisine font-ils autant rêver? Être cuisinier ou chef semble être devenu la nouvelle vocation à la mode, mais quelle réalité, loin des paillettes des émissions télévisées, horaires décalés, stress permanent, métier physique, concurrence féroce, est-ce un monde si rose? À quel défi le secteur de la restauration fait-il face aujourd'hui? Pour évoquer ce sujet, se tenait hier à Paris une table ronde qui a réuni 300 personnes, restaurateurs, chefs de salle, blogueurs dans la gastronomie. Bonjour Mathieu Bagure.
Bonjour.
Vous êtes le directeur région France-Belgique-Suisse de La Fourchette qui a organisé cette table ronde. La Fourchette, c'est un site qui permet de réserver des tables dans des restaurants sur Internet. À vos côtés, sur ce plateau, beaucoup de chefs et pas des moindres. Bonjour Gaël Rieux.
Bonjour.
Vous êtes le chef propriétaire du restaurant Auguste, restaurant étoilé du 7e arrondissement de Paris. Julien Roucheteau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également chef étoilé de la Seine Thélème depuis, c'est très récent, il y a à peu près deux semaines. Et bonjour Christian Abégane.
Bonjour.
Vous êtes chef cuisinier, vous avez ouvert votre premier restaurant à Douala, au Cameroun, puis à Paris, le Palanca. Vous publiez un livre sur le patrimoine culinaire africain. Et vous, les voisins, les voisines, avez-vous envie d'exercer cette profession? Si oui, pourquoi? Et si vous travaillez déjà dans une cuisine, dans un restaurant, sans forcément être chef d'ailleurs, vous nous appelez pour nous raconter au 33 1 84 22 71 71. 33 1 84 22 71 71. Et on vous attend aussi sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook 7 milliards de voisins et puis sur notre compte Twitter. Je vous lis déjà quelques messages sur notre page Facebook, celui de Djibril à Caille au Mali. Que ça sent bon, que c'est merveilleux. Chez moi, la transmission des secrets de cuisine a encore lieu. Madame est la meilleure chef au monde. Bonne émission et bonne dose de piment. Très bien, on va essayer de faire effectivement une bonne émission. Kevin nous écrit depuis Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Interdiction totale de voir un homme faire la cuisine. Même dans les restaurants de la ville, c'est mal vu. Alors, on reviendra sur le sujet. Et Drissa est à Abidjan. Je le cite, la cuisine est le laboratoire d'une santé durable. Savoir cuisiner, c'est s'octroyer une santé équilibrée. Les cordons bleus ont opté pour cette profession pour aider le peuple à garder son potentiel énergétique.
18 000 amateurs, leur rêve, devenir cuisinier.
J'ai encore le cœur qui bat en fait.
Oh mon Dieu!
Je suis sous le choc, hein. Excusez-moi.
Top Chef is back with a super-sized premiere.
Master Chef, الجزائر, le موسم الأول يبدأ الآن.
Hemos invitado al chef que más estrellas Michelin tiene en su poder. 31.
Master Chef. 60 jours de compétition. Un seul sera élu Master Chef.
On vient d'entendre l'émission télévisée Masterchef hein, dans plusieurs langues. Alors la cuisine à la télé, ce n'est pas nouveau. Elle investit les écrans français depuis les années 50. Mais depuis un peu plus de 10 ans, la nouveauté, c'est que n'importe qui, avec une bonne dose de passion, peut porter la toque. Alors Gaël Aurieux, selon vous, quel impact ont ces émissions télé sur les vocations?
C'est qu'elles ont un impact, c'est qu'elles nous apportent beaucoup de cuisiniers dans les écoles hôtelières, mais ça reste pour moi un peu de la télé, voilà, avec un show, avec un jeu, voilà. Et moi, je suis bien placé pour le savoir parce que j'étais conseiller culinaire de M6, de Top Chef, pendant 5 ans.
Une autre émission
culinaire.
Voilà,
une autre émission. Donc, c'est moi qui élaborais les sujets avec le jeu de télé, voilà. Mais ça reste pour moi un jeu et de la cuisine dans un jeu. Voilà, c'est pas vraiment la réalité de ce qui se passe dans les cuisines tous les jours, voilà, et ce que ça implique.
On voit rarement les candidats faire la vaisselle.
Voilà, parce que la vaisselle, tout le côté fastidieux, voilà, et ça dure, on leur donne un sujet pour 1 heure, 2, 3 heures, 4 heures maximum, voilà, alors que nous, on cuisine toute la journée, on cuisine 8 heures, quoi, voilà, minimum, voire 12 heures dans nos cuisines.
Mais en tout cas, ça a pu permettre de faire connaître le métier de cuisinier dans le monde. Christian Abégane, vous avez présidé un concours culinaire télévisé africain, Star Chef. En quoi ces émissions influencent-elles les jeunes spectateurs ?
Mais ça, surtout susciter des vocations, parce que ce n'est pas un métier qui est facilement adaptable. En Afrique, la cuisine est réservée aux femmes.
Mais, c'est ce que nous disent beaucoup de voisins, d'ailleurs.
Mais c'est quand même 1,2 milliard d'habitants. Il faut bien que ces gens-là puissent manger. C'est qu'ils sont dans les villes. Donc, tout autour de tous ces hôtels et tout, il faut quand même du personnel donc, formé, donc qui travaille. Le concours a permis de pouvoir réveiller donc, des vocations. C'était un peu différent parce qu'on a beaucoup de jeunes qui veulent apprendre, qui veulent apprendre. Moi, je faisais la sélection des passionnés en fait, de cuisine pour pouvoir les faire concourir. Donc, c'était par rapport à cet éveil, parce que c'est quand même difficile de trouver une place, c'est difficile de payer des fois une école. Mais, c'était sûr. Mais par la vocation, on arrivait à trouver quand même des candidats assez exceptionnels.
Comment vous êtes tombé dans la marmite, vous, Julien Roucheteau ? Ce n'est pas la télé, si, qui vous a
non,
motivé ?
Moi, ce n'est pas la télé. C'est il y a plus de 30 ans. C'est-à-dire que c'est grâce à ma grand-mère, parce que moi, je suis de la campagne. Et même si je suis pas né à Paris, j'ai été élevé à la campagne et c'est ma grand-mère qui popotait, c'est-à-dire que voilà, on va dire voilà, c'était la femme du foyer qui cuisinait le lapin qui venait du poulailler, qui nous donnait à manger le midi, le soir, et puis les légumes du jardin du grand-père qui étaient cultivés à longueur de journée. Cette image-là m'a resté beaucoup, les odeurs, la façon de faire. Et je me suis dit pourquoi pas un jour. Et après, bon élève aussi à l'école. Et je dirais, alors d'aujourd'hui, on revient, la mode est de prenouveler, de mentionner un peu l'apprentissage. Et c'est vrai que c'est important parce que moi, à mon époque, comme j'étais bon élève à l'école, on m'avait fermé les portes de l'apprentissage. Donc ça aussi, c'est un moteur où il faut se battre à notre époque et c'était un choix. Et donc ce choix-là, moi je l'ai fait, je l'ai assumé.
Donc vous avez arrêté l'école ?
J'ai arrêté l'école pour rentrer dans l'apprentissage en alternance et passer mes diplômes. Et donc on m'a dit, si tu veux vraiment faire ce choix-là, il va falloir bosser parce qu'on ne te laissera pas... On ne fera pas de cadeau.
Gaël Aurieux, vous ne vous étiez pas du tout destiné au départ à la cuisine.
Pas du tout. Moi, j'étais un super sportif. Voilà, je faisais que ça, du sport et du rugby. Et à 18 ans, j'étais moniteur de plongée sous-marine. Voilà, rien à voir. Un jour, je passe devant une école de cuisine. On me dit marqué, vous pouvez passer un CAP en 6 mois. J'avais l'armée à faire à ce moment-là. J'avais un petit trou. J'ai passé un CAP. Je suis rentré à l'armée.
Un peu par hasard, en fait.
Par hasard. Je suis rentré à Matignon. Puis là, j'ai découvert des cuisiniers qui avaient travaillé dans des grosses brigades, qui avaient démarré des 14-15 ans, qui étaient déjà très, très affûtés. Où j'ai dit, si tu veux faire de la cuisine, t'as un peu de retard. Là, faudrait accélérer. Et j'ai eu la chance. J'ai fini l'armée. Une place se libérait chez Paul Bocuse. Et après, j'ai enchaîné pratiquement pendant 15 ans que des 3 étoiles Michelin.
Mais voilà. Vous êtes passionné de plongée sous-marine et vous cuisinez des produits de la mer.
Oui, je cuisine moi beaucoup de produits de la mer, beaucoup de mélanges terre-mer. Mais vraiment, quand j'ai démarré la cuisine, je sortais du sport pour démarrer la cuisine, je suis rentré à l'école hôtelière, je ne savais pas reconnaître une échalote d'un oignon. Hein. C'était une découverte.
Il fallait réapprendre les bases.
Tout.
Mathieu Bagurlin, on voit autour de la table des chefs motivés, des chefs passionnés. Et pourtant, c'était aussi un des objets de la conférence que vous avez organisée avec La Fourchette. Les restaurateurs aujourd'hui ont du mal à recruter en France. Comment l'expliquer ?
Alors, en fait, je pense que le fait que les chefs soient plus mis en avant dans les médias facilite un petit peu le recrutement de personnel de cuisine. Je pense que la difficulté elle est plutôt sur le personnel de salle. Je pense dans les médias et globalement, c'est ce qui ressort un peu, les médias ne valorisent pas assez les métiers de salle, les pouvoirs publics non plus d'ailleurs. Alors que la salle, ça reste le bras droit du chef. Et dans un restaurant, c'est pas que l'assiette finalement, c'est aussi l'expérience qu'on peut vivre. Et le service tient une part importante là-dedans, je pense.
Et là, on a des enjeux de recrutement.
Ouais, tout à fait. Donc, de plus en plus de difficultés pour recruter. Il faut savoir que les gens, en tout cas ce qui est ressorti hier de nos tables rondes, c'est que, en gros, les gens ne veulent plus faire d'extra. De coupure. Donc en gros, vous savez qu'il y a le service du midi et le service du soir, et entre les deux services, il y a les coupures. Et donc les gens aujourd'hui ont moins d'envie de faire les coupures, les professions ne sont pas forcément valorisées, donc évidemment, il y a un double enjeu. On veut toujours recruter du personnel de salle, mais les gens ne veulent pas faire de coupures, les gens sont plus exigeants sur ce qu'ils recherchent.
C'est-à-dire de rester trop longtemps à attendre en fait, le prochain service.
Exactement, tout à fait. Donc en gros, ils ne travaillent plus pendant 3-4 heures l'après-midi avant de reprendre le service du soir. Donc ça, c'est aussi une des difficultés qu'il peut y avoir sur le marché.
Les voisins, les voisines, vous nous appelez, vous n'hésitez pas si vous avez envie de vous lancer dans la restauration, si vous êtes déjà à l'œuvre, peut-être derrière les fourneaux de votre restaurant en train de concocter votre plat du jour, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins.
Et aujourd'hui, on dit quoi ?
J'ai mis le nom 7 milliards parce que nous sommes 7 milliards d'habitants sur la Terre et voisins. parce que nous sommes tous des voisins.
Et vous, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
On vous attend. Appelez vite.
Et tout de suite, reportage. Le lycée Béliard, dans le nord de Paris, forme depuis les années 60 au métier de l'hôtellerie et la restauration. Notre reporter Philippine Lebré s'y est rendue un soir de travaux pratiques. Pour les élèves de terminale, chaque semaine, il cuisine pour les clients du restaurant du lycée comme de vrais professionnels. Au menu ce soir-là, feuilleté aux escargots et escalopes de veau, vous allez l'entendre rissoler. En cuisine, les élèves s'affairent sous le regard attentif de leur professeur.
Le côté en premier à colorer, c'est le côté qui a été quadrillé, c'est le côté présentation. D'accord ? On fait attention parce que la chapelure, elle a tendance à brûler facilement. Donc on va laisser colorer doucement. Et une fois que ça va être coloré sur la deuxième face, on remettra sur plaque et on finira au four pour le moment du service. Donc moitié huile, moitié beurre clarifié. Si vous mettez du beurre cru, le beurre il va risquer de brûler plus facilement. Alors que le beurre clarifié, logiquement, il va dorer.
Je m'appelle Judith, je suis en terminale bac cuisine.
Ça fait combien de temps que tu as commencé à te former en cuisine ?
3 ans, mais j'avais fait un stage en 3e pour savoir si je pourrais faire ce travail plus tard. Et j'avais vraiment aimé ce que j'avais fait, donc je me suis dit, bah on y va.
C'était quoi comme stage ?
C'est un traiteur qui envoie pour les réceptions. Et j'ai adoré ce que j'ai fait. J'ai fait des crêpes, j'ai fait des choux. Et ça m'a fait beaucoup envie. En regardant les gens travailler. Parce que l'ambiance de la cuisine, c'est une ambiance familiale et ils rigolaient ensemble, mais ils travaillaient en même temps, ils étaient sérieux. Et on peut goûter aussi ce qu'on fait. Ça, c'est un petit plus. Enfin, c'est comme si je cuisinais à la maison, sauf que là, c'est un peu plus professionnel. La première question, c'était est-ce que tu es prête pour les horaires tu seras capable de finir à 22h, 23h, est-ce que tu es prête à ça? Les horaires, ils m'ont un peu plombé le moral et j'ai hésité à continuer à faire cuisine. Et puis après, mes parents, ils m'ont dit que j'avais le niveau pour faire ça et puis j'étais vraiment déterminée. Donc techniquement, c'est pas l'horaire qui devrait m'empêcher de faire ça vu que j'ai vraiment envie de faire ça. J'ai envie de réussir mon restaurant, vraiment.
Là-dedans, Dina, tu me donnes un petit coup de mixeur en faisant attention, tu le penches bien pour pas que ça éclabousse tout le monde. Les top chefs, les master chefs, ça fait rêver les jeunes. Et quand on leur dit qu'il faut travailler le samedi, dimanche ou les jours fériés, là, il y en a certains, ça les bloque. Alors, de 24 en seconde, on arrive à peu près à 16, 18 en terminale. En début d'année, on les emmène visiter des hôtels ou aller dans des restaurants. Certains, leur seule culture de la restauration, c'est le McDonald's. L'art de la table, c'est une découverte. Faire à manger, ça, ils l'ont tous fait, mais le métier, c'est un métier de partage, quoi. Donc c'est bien beau de se faire plaisir en faisant à manger, mais le but, c'est de faire plaisir aussi aux clients qui est en face et qui reviennent.
Mais comment vous expliquez que des élèves qui ne sont jamais allés manger au restaurant atterrissent dans une formation de cuisinier ?
C'est la magie de la télé, quoi. Je veux dire, les grands chefs qui vous font des plats, etc., où on coupe le plan caméra et d'un seul coup, le plan de travail est propre et les scènes sont dressées. On a l'impression que c'est... que tout a disparu. Alors, moi, avec mon recul, je le vois. Je comprends le montage de l'émission, mais le jeune, il voit pas ça.
Alors là, on passe au service. C'est chaud devant.
Je m'appelle Oumar, j'ai 18 ans.
Ça fait combien de temps que tu étudies la cuisine?
Là, aujourd'hui, ça va faire 4 ans. C'est à cause de ma mère. En fait, j'aimais bien la voir faire à manger. Elle m'a donné envie de faire les mêmes plats qu'elle.
Mais tu connaissais la cuisine professionnelle avant de commencer la formation?
Non, je connaissais pas. Juste regarder quelques émissions, genre Top Chef, Le Meilleur Pâtissier. Franchement, ça donne envie.
Mais est-ce que les émissions, ça te prépare bien à la réalité de ce que c'est le métier?
En soi, ouais. Quand on voit comme ils sont sévères les chefs, ça se passe comme ça dans certaines entreprises, avec les chefs qui sont bien sévères pour bien que les plats sortent vite. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que ça travaille quand même beaucoup. Hein. C'est un métier qui fatigue. Hein. Moi, je pensais que c'était un métier tranquille où s'envoyer les plats. Dès le jour de mon premier stage, j'ai direct compris que c'était pas ça en fait.
Qu'est-ce qui s'est passé le premier jour?
Tout le monde était à fond, tout le monde envoyait vite les plats, ils perdaient pas de temps, ça parlait pas. Et c'était du sérieux. Quoi.
T'as toujours envie aujourd'hui de faire carrière dans la cuisine?
Bien sûr. C'est un métier où on rencontre des nouvelles personnes. En plus, ça nous apprend à faire des bons plats, ce qui sert toujours dans la vie. Hein.
À qui est-ce que tu fais des bons plats?
Bah pour la maman.
Elle est fière de toi?
Oui, elle est fière.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Cuisiner pour sa maman et pour les autres, comment vous réagissez à l'écoute de ce reportage, Julien Roucheteau? Je vous ai vu sourire en écoutant ce dernier élève.
Bah oui, sourire, surpris et sourire parce que bah, ça sort pas du tiroir. Donc, oui, il y a une préparation derrière, il faut se lever tôt, il faut travailler le produit brut et derrière dans l'assiette, bah, il faut le mettre et l'assaisonner et le cuire à juste température, tout ça. Et après, comme disait tout à l'heure Mathieu, il y a tout le service de salle aussi qui est important dans un restaurant. C'est une équipe, on est ensemble du plongeur jusqu'au cuisinier, jusqu'à la salle. Donc c'est vrai que derrière, il faut faire comprendre aux jeunes que notre métier est valorisé par d'autres collègues que par que notre travail à nous au quotidien. Et donner la valeur aux autres, c'est ce qu'il y a de plus important.
Je vous propose d'accueillir un voisin tout de suite, Okayambo à Lomé, au Togo. Bonjour Okayambo.
Bonjour 7 milliards de voisins, bonjour Charlie.
On vous écoute.
Ah voilà, donc comme je le disais... Moi, aujourd'hui, je suis second du chef dans l'un des 5 meilleurs restaurants de Lomé. J'avoue que, essentiellement, c'est la passion et la vocation qui m'ont amené vers ce métier de cuisine. Et cela me permet d'y tenir et d'y réussir là-dedans. En fait, généralement, pour les métiers de bouche, je trouve que la vocation est essentielle, en plus de la passion.
Parce qu'il y a beaucoup de contraintes.
Oui, il y a beaucoup de contraintes. Il faut beaucoup de sacrifices de soi, beaucoup de disponibilité. Des fois même, ça t'amène à oublier ta vie privée. J'ai écouté les chefs intervenir sur la question de rupture, des choses comme ça. Donc ça demande beaucoup de sacrifices.
Notamment sur la vie de famille.
Oui, voilà. Parce que moi, par exemple, dans le restaurant où je travaille, je ne fais que la nuit. 5 jours sur 7, je ne fais que la nuit, de 16h à 23h.
Et voilà. Et vous avez des enfants?
Ah non, moi je suis célibataire.
Donc pour l'instant, ça n'a pas encore d'impact sur votre vie familiale. Merci, merci Okayambo pour ce témoignage. Qui veut réagir, Gaël Aurieux?
Moi, je pense qu'il y a une sélection qui se fait naturellement. Voilà, il y a des gens qui sont motivés. Et après, moi, je sais que j'ai jamais eu de problème d'adaptation par rapport aux horaires, à la vie familiale, tout. Voilà, je suis épanoui dans ce métier-là. Et je pense que moi, je connais plein de cuisiniers, même que j'ai dans mon restaurant, qui font coupure. Parce que moi, tout le monde fait coupure dans mon restaurant.
Donc, c'est-à-dire qu'ils
ne travaillent pas. Le matin, s'arrête l'après-midi et retravaille le soir. Et je sens que tout le monde est à l'aise. Du personnel qui est là depuis 10 ans, puis 8 ans. Voilà, il y en a que ça gêne pas. Voilà, et qui sont faits pour ça et qui a aucun problème. Voilà. Après, j'ai rencontré plein de cuisiniers aussi qui n'arrivaient jamais à s'adapter à ce type d'horaire et ce métier en finale.
Gaël Aurieux, Mathieu Bagur, Christian Abégan, Julien Roucheteau, on continue de parler de ce sujet qui nous rassemble aujourd'hui, hein, les métiers de la cuisine. Qu'est-ce qui fait un bon... on se retrouve dans un... Oui. Qu'est-ce qui fait un bon chef selon vous, Julien Roucheteau?
Un bon chef, ça va partir de la base. C'est déjà être bien formé correctement par rapport à ses pairs. Voilà, il faut aussi avoir la petite étoile. Je veux dire, moi, j'ai eu la chance de travailler avec des meilleurs ouvriers de France, de m'imprégner un peu cette dynamique d'une équipe, de suivre un peu les ordres et puis bah d'apprendre et puis bah essayer de transmettre. Donc voilà. Après, c'est de l'assiduité, c'est du courage, c'est sûr. Mais aussi, c'est de la gourmandise tous les jours. Et puis, c'est du partage énormément. Moi, alors aujourd'hui, il y a des choses dans ma carrière où je suis très fier, même si elle est très courte pour l'instant, parce que ça fait que 20 ans que je fais ça. Mais par exemple, ma dernière fierté, c'est d'avoir transformé un plongeur en tant que cuisinier, qui ne parle pas français, mais qui est au niveau.
D'où la transmission dont vous parlez.
La transmission, le partage.
Julien Roucheteau, Gaël Aurieux, Mathieu Bagur, Christian Abégan, vous restez avec nous. On va continuer de parler de ces métiers de cuisine sur RFI. On vous retrouve juste après le flash d'info. Dans 3 minutes, les voisins, les voisines, on attend vos points de vue, vos témoignages au 33 1 84 22 71 71. A tout de suite dans 3 minutes sur RFI.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
7 milliards de voisins, bienvenue si vous nous rejoignez. Les métiers de la cuisine ont la côte et cela a sûrement quelque chose à voir avec le succès de la télé-réalité culinaire. Qu'est-ce qui motive et enflamme les chefs? Comment se lancer quand on a envie de devenir cuisinier? Quels obstacles contourner, car il y en a, et comment ne pas déchanter? Avec nous autour de ce plateau pour en parler, Christian Abégan, chef cuisinier. Vous publiez le patrimoine culinaire africain. Julien Roucheteau, chef étoilé au fourneau depuis peu de la Seine-Thélem dans le 17e arrondissement de Paris. Vous êtes celui qu'on annonce comme l'un des espoirs de la gastronomie française. Nous sommes également en compagnie de Gaël Aurieux, propriétaire du restaurant Auguste, restaurant étoilé parisien. Et puis, vous êtes le seul à ne pas porter la toque, mais on ne vous en veut pas. Mathieu Bagur, directeur de la région France-Belgique-Suisse du site de réservation de restaurant La Fourchette. Vous avez organisé hier une conférence sur les défis qui attendent le monde de la restauration à l'heure de la livraison rapide, des Instagrammeurs tout puissants, on en parlera, et puis d'un climat économique morose. Alors, il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé et pourtant il est difficile de ne pas le faire. Il a poussé de nombreux chefs à s'exprimer sur un sujet sur lequel jusque-là régnait l'omerta. Depuis près de 3 ans, on entend dans les médias, notamment sur les chaînes BFM TV ou France 2, des commis qui prennent la parole pour dénoncer les violences en cuisine. Écoutez.
J'ai fait une petite erreur là, j'ai peut-être pas mis le bon grammage. Le chef, il m'a forcé à boire 2 cuillères d'eau bouillante. Je me suis fait insulter, je me suis fait humilier un petit peu devant toute la brigade.
On commence à avoir des journées de travail qui font environ 17 heures.
Plus de pause pour café, plus de pause cigarette, pour aller aux toilettes, c'était compliqué. On ne mangeait pas de la journée. Le seul moment où on pouvait manger, c'était en se levant le matin ou en allant se coucher le soir.
Une fois, on avait un temps de pause, on avait 3-4 minutes avant le service. Et donc, on a demandé si on pouvait prendre 2 minutes pour manger. Et la réponse a été que si on mangeait une fois, on prendrait l'habitude de manger. Donc non, on ne mangerait pas, parce que sinon on réclamerait tout le temps, tous les jours.
Si je prends l'exemple du gamin, il y a une quinzaine d'années, qui était aux entrées ici, j'annonce le bon, il comprend pas, il fait n'importe quoi, à la rigueur je vais le chercher, je le prends là, par le callback ici, je le prends là, je lui dis regarde le tableau, essaye de comprendre ce que je te dis, et j'avais tellement serré fort qu'à un moment ou un autre, effectivement le gamin il était tombé dans les vapes, quoi, parce que j'avais tiré, non pas parce que j'avais envie de lui faire mal, c'est là aussi où il y a une grosse différence, hein, que moi j'ai jamais tapé ou voulu faire mal au gars, mais c'est dans l'instinct du service, dans un moment ou un autre, le gars comprend pas, tu l'amènes et puis boum, quoi.
C'était le chef Jean-Marie Le Pelletier qui tient un restaurant gastronomique près d'Angers, Loiry, et qui reconnaît quelques débordements. Gaël Aurieux, quelle est votre position sur cette question?
Moi, position, je pense que c'est comme dans toute entreprise, il y a des fois, il y a des débordements qui peuvent arriver, il n'y a pas que dans la restauration.
Mais qui là prennent une forme.
Oui, qui prennent une forme un peu
grave.
Extrême, voilà, que je ne cautionne pas du tout. Mais il y a une belle évolution, je crois, dans ce métier, mais je trouve qu'on devrait former un peu plus les chefs, même dans les écoles hôtelières, je veux dire, sur la gestion du stress, voilà. Est-ce que nous, on est dans un métier où le client est assis, il faut lui servir ce qu'il a commandé dans un timing, dans un temps qui soit satisfait, qu'il n'y ait pas de problème. Et je pense qu'on devrait former un peu plus les chefs, les élèves et tout à ça. Moi, je suis quelqu'un, par exemple, qui me contrôle très bien, parce que avant, j'ai joué au rugby, j'ai pris des coups, fallait pas répondre. J'ai aussi fait de la plongée où quand vous êtes à 60 mètres, faut pas paniquer, faut gérer tout ce qui peut arriver.
Donc vous voyez, c'est canaliser votre stress.
Je sais canaliser mon stress tout, mais je sais que tout le monde ne peut pas, et des gens des fois un peu dans la panique ont des attitudes tout qu'ils ne devraient pas avoir, voilà. Mais je pense qu'on devrait former un peu plus les chefs et les élèves et tout justement à ça, l'attitude qu'ils doivent avoir en cuisine, voilà.
Julien Roucheteau, vous aussi vous avez trouvé un exutoire, le rugby?
Non, moi très simple en fait. Nous on a connu ça il y a 20 ans, c'était comme ça, c'est sûr, on va pas se voiler la face. Maintenant, aujourd'hui, c'est plus du tout ça, et puis ça serait à dégoûter les gens. Faut changer de mentalité, faut aussi grandir. Et moi je suis plutôt moqueur, charrieur. Je dirais que je fais ça là plutôt par charrieur, pour simuler un peu les gens et puis leur montrer aussi. Parce que des chefs qui ne montrent pas qu'ils sont capables de faire, c'est dommage pour eux, parce que la personne que vous avez certainement en face de vous va pas comprendre ce que vous lui demandez. Et pour qu'ils comprennent mieux, c'est un peu comme on fait sur les photos, on voit sur Instagram, les gens vont plus réagir sur une photo parce qu'ils comprennent. Vous allez mettre un texte sur Instagram, les gens vont pas comprendre parce que y a des défauts, chacun voit. Et alors que par le regard, par la vue, par l'exécution, et lui montrer que il peut être capable aussi de faire ça. C'est important.
Christian Abégane.
Oui, c'est aussi la responsabilité de ceux qui dirigent les équipes. C'est quand même avant tout, comme il a dit, que on doit mieux les former. C'est quand même un métier militaire. Hein, c'est exactement comme dans l'armée. Donc avec des bases et des valeurs, le coup de feu n'est pas quelque chose qui doit être une torture, forcément, mais chacun doit faire des choses pratiques. Mais il y a les débordements un peu décidés là. Moi, je vois même, par exemple, en Afrique, quand vous devez donc travailler et que vous êtes sous 40 degrés de chaleur, c'est encore pire hein, que les environnements qu'on a. Les cuisines ne sont pas toutes climatisées. Donc vous avez juste 30 minutes ou 45 minutes à envoyer encore pas, parce qu'il y a les températures, il y a tout ça avec des conditionnalités de santé publique, parce que les produits, il faut faire vraiment très attention, les cuissons sur la chaleur, c'est 10 fois pire en fait.
C'est encore plus stressant.
C'est encore beaucoup plus stressant. Mais si on apporte la manière, en expliquant, moi j'explique toujours à mes étudiants, c'est un métier militaire, c'est vraiment comme à l'armée, donc si chacun prend son poste, sa place, respecte ce pourquoi il est venu faire l'engagement qu'il a pris pour pouvoir essayer de participer à cette aventure. Généralement, les choses se font comme ça, un peu plus simplement.
Gaël Orieux, gérer un restaurant, c'est finalement gérer une entreprise aussi.
Alors, oui, parce que moi, le restaurant, je suis tout seul à gérer. Je suis le seul patron, comme je dis, je suis le comptable, l'électricien, je fais les courses, voilà, je fais tout. Donc, non, mais c'est un métier passionnant, voilà. Et je trouve que, pour moi, le but, c'était vraiment de monter mon entreprise et tout seul. C'est ce qui était, parce qu'à Paris, il y a beaucoup de restaurants, par exemple, où ils sont multi-associés et tout. Et là, je suis... le seul à décider de tout. S'il y a une erreur, c'est moi. Quand il y a des choses bien, c'est moi. Et j'essaie de faire partager aussi toute mon équipe à cette avancée. Moi, je fais beaucoup, beaucoup de choses à côté, beaucoup de consulting à côté du restaurant.
Vous trouvez le temps de faire ça?
Oui, exactement. Mais je sais que ça motive aussi mes équipes parce qu'ils ont un patron qui ne s'arrête pas et qui avance. Voilà. Donc, je pense qu'aussi, je suis un peu le moteur de mes équipes qui restent depuis très longtemps, parce que j'ai ouvert il y a 14 ans, j'ai des cuisiniers qui sont restés 11 ans, certains qui ont ouvert des restaurants que j'ai aidés, tout ça, donc voilà, j'essaie toujours d'être un peu le moteur, mais je suis 4x4, je sais tout faire, pas que la cuisine, voilà.
Avec la dose de démarches administratives que cela implique.
Démarches administratives, mais pas tant que ça, après c'est une question d'organisation, et il faut savoir déléguer aussi à ses équipes, moi chacun a un petit rôle, voilà, autre que la salle ou la cuisine, voilà.
Mathieu Bagure, un restaurant sur deux en France ferme ses portes avant son deuxième anniversaire. Comment cela se fait ?
Non, mais comme dit précédemment, le restaurateur aujourd'hui, c'est plus que je fais l'assiette, si vous voulez. Maintenant, ça doit être un marketeur, un gestionnaire, un visionnaire. Il y a beaucoup de choses à prendre en main. Par ailleurs, le fait d'ouvrir un restaurant, ça s'est vachement démocratisé. Donc les gens ouvrent des restaurants sans forcément évaluer les enjeux et les risques que ça peut engendrer. Chez nous, on traite tous les jours des sujets de la fameuse table vide. Enfin, j'ai la table vide, qu'est-ce que je fais pour la récupérer? Et c'est un vrai métier. Donc nous, notre enjeu chez La Fourchette, c'est d'aider les restaurateurs à remplir le restaurant et aussi à fidéliser la clientèle. Mais évidemment, à Paris, la concurrence est très rude. Il y a pléthore de restaurants. Il y a une offre assez énorme. Il faut savoir se différencier dans tout ça, tout en faisant, assurant une bonne image sur Internet, assurant une bonne gestion financière.
Alors justement, comment on gère son image numérique, puisque c'est un des défis qui attend les cuisiniers de demain et d'aujourd'hui d'ailleurs?
En fait, ce qui est assez drôle, c'est qu'à l'époque, je gérais ma vitrine, je gérais l'aventure de mon restaurant, ça suffisait. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux. Il faut avoir une visibilité sur Internet qui est assez large. Donc, il faut avoir un site Internet ou un espace dans lequel je vais pouvoir présenter le restaurant, la carte, le menu. Plus aujourd'hui, des avis. Plus aujourd'hui, les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook.
Les avis viennent de tout le monde, plus seulement des critiques culinaires.
Tout à fait. Alors, l'exemple de La Fourchette est assez fort, ou TripAdvisor, puisqu'on fait partie de la famille TripAdvisor. Aujourd'hui, sur le site La Fourchette, il y a 4 millions d'avis. Tous les jours, les restaurants ont des nouveaux avis. Et à contrario des guides un peu plus classiques, le guide, vous avez un avis ou une étoile ou un avis une fois par an. Chez nous, tous les jours, c'est live et les avis se construisent au quotidien. Et finalement, les sélections qu'on peut faire, on a lancé la section Insider chez nous cette année, qui regroupe les meilleures tables qu'on peut avoir sur le site. Cette sélection, elle évolue tous les jours. Donc il y a des restaurants qui rentrent, il y a des restaurants qui sortent tous les jours. Et c'est un peu la différence qu'on peut avoir par rapport à un guide Michelin qui...
C'est très émouvant.
Exactement, tout à fait.
Christian Abégan.
Oui, mais comment vous faites avec... je revenais à la vie parce que c'est quelque chose qui est personnel. Il y a des convives, des clients qui émettent peut-être des avis qui ne sont pas conformes à ce qui est dans la réalité. C'est vrai que cette capacité peut aussi nuire à un établissement. Parce qu'on voit des fois des avis, on dit c'est pas bon, par vengeance ou autre chose, on met une étoile. Ou alors... C'est un peu
c'est un
difficile.
Peu
oui, c'est un
chefs.
Peu dur aussi pour les chefs, parce qu'il y a beaucoup qui perdent des clients à cause de désordres comme ça. Comment est-ce que ça peut se régler ça? C'est déjà aussi...
Non, c'est un très bon point ce que vous dites. Et en fait, donc, majoritairement, les avis sont positifs, que ce soit sur TripAdvisor ou La Fourchette d'ailleurs. Sur La Fourchette, pour déposer un avis, il faut être venu dans le restaurant. Puisque seulement quand le restaurateur déclare que le client est parti du restaurant, ça enclenche l'envoi du formulaire d'avis. Ces avis, ils sont modérés, comme on dit, donc contrôlés par des humains chez nous. On a des dizaines de personnes qui font que ça, et aussi par des robots pour s'assurer que l'avis correspond à la réalité. Et encore une fois, plus de 90% des avis sont positifs. La critique, on ne peut pas rendre tout le monde content. Moi, il y a des restaurants qui me plaisent, il y en a d'autres qui ne me plaisent pas, et c'est aussi un petit peu subjectif. Mais l'objectivité se fait par le volume d'avis, et quand vous avez 4 millions d'avis ou plusieurs milliers d'avis sur un restaurant, il va y en avoir des pas bons, il va y en avoir des bons, et la vérité est au milieu, la vérité est une moyenne finalement.
Et quel est le pouvoir de ceux qu'on appelle les influenceurs, ceux qui ont des milliers d'abonnés sur leur compte Instagram par exemple?
Ouais, non, hier on avait une table ronde à ce sujet-là, donc c'est assez drôle, puisque il y a 5-10 ans, c'était les journalistes culinaires qui faisaient remplir un restaurant ou pas. Aujourd'hui, il y a une bascule. On a des blogueurs, des influenceurs qui sont devenus des professionnels de tout ça.
Et à qui on peut dérouler le tapis rouge?
Ouais, alors c'est marrant parce que hier on avait ce genre de débat. Alors il y a influenceurs et influenceurs. Il y a des vrais influenceurs qui vont dans le restaurant et dont la parole est importante. Et puis après, il y a des pique-assiettes, on pourrait dire, qui vont dans le restaurant. Il faut quand même faire la part des choses entre les deux. Mais c'est vrai que le pouvoir de réseaux comme Instagram est très fort. Hier, on avait une table ronde à ce sujet-là. Et certains chefs, aujourd'hui, font des plats Instagrammables, pardon du mot, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup
donc
de chefs
très
qui...
beau,
ouais, ouais, y a beaucoup de, y a beaucoup de chefs qui attachent une part très importante au visuel, avant même le goût. Et c'est aussi des dérives sur lesquelles il faut faire pas mal attention.
Julien Rouchetot.
Alors moi, ma cuisine, c'est aussi bien le visuel que dans l'assiette.
Alors,
sur le goût. Mais je rebondirais par rapport à le visuel. Le visuel, pour moi, quand je poste aussi sur Instagram, alors d'aujourd'hui, moi-même, sur mon compte perso, mais derrière aussi, qui est relaté par rapport à nos réseaux sur le restaurant. Mais je dirais que c'est aussi une... faut poster aussi pas que des images d'assiettes, parce que les images d'assiettes, ça enlève le côté intrigant de la personne, du client, parce que si, en fait, il vient et puis on lui dit, y a des huîtres d'un tel, un tel, un tel, et en fait, vous avez déjà mangé l'assiette. Et donc, c'est ça, surtout au niveau des clients, ils disent « Ah, mais moi, c'est pas dressé comme j'ai vu sur la photo, alors... Ah bah non, c'est nul !» Donc non, le but, c'est pas ça, en fait. Le but, c'est... j'utilise les réseaux sociaux de faire vibrer un peu, vibrer la tension en cuisine, vibrer le moment, faire montrer un peu les essais, sur quel produit on va...
En tout cas, vous utilisez les réseaux sociaux, et
voilà,
ça c'est intéressant.
On utilise les réseaux sociaux surtout pour montrer un peu la vie du restaurant. Et après, oui, c'est sûr qu'on utilise aussi des réseaux sociaux pour montrer les photos, mais des plats. Mais en même temps, on est obligé de le faire, mais j'aimerais bien garder ces photos de plats pour les clients qui viennent dans le restaurant, qu'ils aient la surprise de découvrir. Mmh. Et ça, malheureusement,
c'est compliqué.
C'est compliqué parce que nous, on maîtrise nos photos, mais pas les clients.
Les voisins, vous nous écrivez sur Facebook. Je vous lis le message d'Emmanuel à Lubumbashi en République démocratique du Congo. L'art de cuisiner est bon pour le moral. Ça nous procure du bien-être et de la satisfaction. Rien n'est plus merveilleux que de réaliser une recette et de déguster le fruit de son travail. Un très beau message d'Emmanuel. 7 milliards de voisins, gardez l'appétit. On se retrouve dans un instant après J'arrive de Ben Mazoui.
Agrandis-moi, force la ferveur. Réponds-moi, inspire mes peurs. Porte ma croix, juste quelques heures. Et donne-moi la foi, inspire mes peurs. Termine de signer entre les hommes l'idylle qui va me décider à rester anti-cynique. Résiste à mes idées, concile la branche sur laquelle on est assis sacré. Donne-moi des signes. Attends-moi le monde. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Je réveillais l'espoir. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Je cherchais en qui croire. J'arrive, j'arrive. Excuse mes fautes, dis que c'était pas si grave. Que c'est que des Ecchymos, des bobos. Dis-moi que tout est possible. Si, à ceux qui bravent, l'important c'est pas de toucher la cible, mais c'est de la viser. J'apprends qu'avec ton souffle seulement, assez fou pour compter surtout sur toi, surtout sur toi. J'apprends qu'avec ton souffle seulement, assez fou pour compter surtout sur toi, surtout sur toi. Attends-moi le monde. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Je réveille à l'espoir. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Je cherche en qui croire. J'arrive, j'arrive.
En fait, j'ai voulu faire à manger très tôt. Mais par contre, dans la cuisine, là, il y a des moments très difficiles. Que ce soit avec l'exigence des chefs qu'on a pu croiser, que ce soit avec les heures, avec la fatigue et tout ça. Là où j'ai commencé à vouloir être sûr d'être cuisinier, c'est quand je me relevais le lendemain matin en disant « Ok, on y va encore plus fort. » Le couteau, la casserole, le bruit, tout ça. C'est comme si la cuisine était le prolongement de mes bras. Et c'est ça, en fait. J'ai besoin de faire la cuisine tout le temps, tout le temps, tout le temps.
C'était Julien Dumas, le chef du Lucas Carton à Paris qu'on vient d'entendre. Un chef passionné comme vous, Julien Rouchetot, il a fait ses classes auprès des grands. En quoi c'est important, quand on veut être chef, en tout cas chef étoilé, de suivre ce parcours-là plutôt traditionnel, de travailler dans des grandes cuisines auprès de grands chefs?
C'est important parce que ça vous montre un peu le travail qu'il faut faire au quotidien. C'est une exemplarité. Moi je sais et je le revendique partout où je passe, où je, quand on me dit votre passé, vous le donnez à qui? Mon passé, moi, c'est Michel Troigros. Il a su me prendre, me faire confiance, m'installer comme chef
au Lancaster.
Et puis derrière, de me tailler comme un petit bijou. Voilà, mais en même temps, il m'a donné son savoir. Et maintenant, alors aujourd'hui, c'est à moi de donner ce savoir-là pour les autres.
Gaël Aurieux.
Moi, je pense que la cuisine, c'est un métier qu'on doit démarrer assez jeune. Je trouve que les formations et les écoles de l'hôtelière emmènent les élèves un peu trop loin dans l'âge quand ils sortent. C'est-à-dire souvent, ils sortent avec des BTS et d'autres diplômes ou des bachelors ou autres vers 23 ans. Et je trouve que c'est un peu tard des fois pour rentrer dans cette profession. Je pense que la réalité, il faut l'avoir assez jeune. Là, par exemple, j'ai un chef très connu qui m'a placé son fils en apprentissage qui a 15 ans. Il a dit, il passe ses diplômes à 17 ans, il ira directement sur le marché du travail. Je veux qu'il arrête les études et son fils pour reprendre l'affaire familiale. Et je trouve ça très bien au final, le petit super motivé.
Parce qu'on est plus motivé quand on est jeune.
Je sais pas, mais je pense qu'il va être plus moulé, voilà, dans le moule de la restauration. Est-ce que c'est en étant jeune? Je trouve que passer un âge.
Que penser de ceux qui se reconvertissent dans la cuisine, puisqu'il y en a aussi?
Alors, c'est bien, il y en a qui réussissent. Moi, je pense que passer un âge, c'est un peu dur. Il y a beaucoup de déchets, mais après, c'est plutôt pour des gens. Moi, j'en ai pris dans mon restaurant pendant 10 ans qui montent souvent des concepts ou qui ont déjà un projet un peu abouti. Après, est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas, mais c'est souvent, ils ont des projets.
Les voisins, les voisines, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Et nous sommes en ligne avec un voisin, Osana, à Béboto, au Tchad. Bonjour, Osana.
Bonjour Charlie et bonjour à vos invités.
On vous écoute.
Je voulais devenir cuisinier, mais dans mon pays, le Tchad, c'est vraiment déconseillé.
Ah bon?
Car les gens pensent que c'est un sous-métier et la cuisine est réservée uniquement aux femmes. Les hommes qui essaient de faire ces métiers sont le plus souvent humiliés. Donc moi, j'ai décidé de changer de métier. Parce que je suis mal vu par mon entourage et même par certains membres de ma famille. Alors, je me suis inscrit à l'école normale supérieure pour devenir plutôt un enseignant. La tradition pèse sur ces métiers, que je dirais d'ailleurs noble. Beaucoup de jeunes qui veulent faire ces métiers abandonnent par la suite à cause des critiques et humiliations. Alors, comment aider ces jeunes qui rêvent avoir comme métier la cuisine et quels conseils leur donner?
Pour ne pas qu'ils renoncent. Merci Osana pour ce témoignage et puis pour ces questions. Christian Abégan, est-ce que vous voulez lui répondre?
C'est d'abord l'abnégation, c'est l'envie de pouvoir faire des choses et peut-être se délocaliser. Je pense que quand on est un jeune homme et puis on peut changer de ville, parce que le monde urbain, généralement, a plus de possibilités de pouvoir s'épanouir dans ce métier. Donc quand on est dans les campagnes, parce qu'il y a beaucoup de pays aussi en Afrique où c'est un métier que les hommes ne font pas. Il y a des cuisines qui sont rituelles pour des choses spécifiques.
C'est vraiment très mal vu de le faire. Voilà.
Oui, dans certains environnements, c'est très mal vu. Moi-même, quand j'ai ouvert mon premier restaurant, moi, j'étais sorti du cordon bleu, donc je me suis dit, bon, je ne connais rien vraiment sur l'Afrique culinaire. Je suis rentré ouvrir un restaurant au Cameroun. C'était extrêmement difficile, parce que tout le monde disait, mais tu aurais dû être avocat, tu aurais pu faire autre chose que cela. C'était pas... Alors que, bon, j'ai fait beaucoup de pédagogie, les parents eux-mêmes venaient voir le travail qui était fait, comment ils pouvaient essayer de donner aussi, susciter des vocations pour les enfants et donner aussi pas mal de corrections alimentaires. Parce que l'Afrique, c'est quand même, comme je vous ai dit, 1,2 milliard d'habitants, mais on est envahi aussi par des produits qui sont nocifs. La mayonnaise chimique est dans nos assiettes, donc maintenant. Donc, il y a énormément de travail à faire pour cela. Le monde de l'alimentation a besoin d'avoir des acteurs, des cuisiniers, pour pouvoir essayer de pallier à cela.
Se délocaliser pour ne pas renoncer.
Pour ne pas renoncer, il y a beaucoup qui le font. Bon, il y a certains pays qui sont plus
ouverts. Il faut avoir les moyens de le faire, la possibilité.
Au Cameroun, c'est déjà un peu moins. Et tous ces pays où on a fait l'émission Star Chef, qui est par le biais de Canal+, où c'est ce concours culinaire, j'ai rencontré beaucoup de jeunes, que ce soit des autres chefs, des hôtels aussi, pour essayer d'amorcer ce travail. Et puis avec d'autres associations pour pouvoir sensibiliser donc les personnes. Parce que la démographie est en train d'avancer, il faut bien trouver des personnes qui vont travailler déjà dans les hôtels ou bien du personnel dans des maisons qui doit être formé. Donc forcément, c'est aussi un métier où ils peuvent s'épanouir. Mais il faut peut-être se délocaliser, trouver des environnements, comme moi je le conseille, qui se rapprochent des hôtels ou peut-être des restaurants et au petit bonheur la chance et puis avoir sûrement quelque part un parrain, quelqu'un qui vous conseille un peu mieux sur le terrain.
Vous avez réussi à ouvrir un restaurant à Douala?
Oui, c'était ardu et difficile. Mais c'était très très difficile parce qu'on ne pouvait pas... Je ne trouvais pas facilement de commis des jeunes. J'ai dû les former moi-même. J'ai dû reprendre mes cours et refaire de la formation pendant un an pour avoir des commis.
Vous manquiez de personnel formé.
Oui, il en manquait pour pouvoir avoir ce que je voulais, pour pouvoir essayer de faire une application. Surtout que moi, je faisais une adaptation gastronomique de tout ce qu'on avait comme produit sur sur le continent, parce que je défends le manger citoyen, parce que on doit être capable de pouvoir faire des choses agréables avec ce qu'on trouve ce qu'on a en face, parce que on n'a pas besoin d'attendre des poulets qui viennent de Brésil. Parce qu'effectivement, c'est tous ces produits qu'on trouve un peu partout, et surtout qui inondent le continent. Donc, il y avait tout ce travail. J'ai mis plus d'un an à pouvoir les former, pour avoir dans des commis, et au fur et à mesure. Et il y a plein des commis que moi j'ai eu qui sont chefs maintenant, qui sont dans des hôtels qui ont été récupérés. Donc, c'est un travail de longue haleine, mais qui est déjà installé, où il y a quand même pas mal de passionnés qui suivent cela.
Mathieu Bagur, en l'occurrence, en France, la place des femmes est un des défis qui attend encore le monde de la restauration.
Ouais, tout à fait. Donc hier, on avait une table ronde à ce sujet-là. Donc on avait de très jolies invitées. Nous avions Stéphanie Lequelec, nous avions l'épouse de Jean-François Piège, Elodie Piège, et nous avions le chef de l'Astrance, donc Pascal Barbeau. Et c'est vrai qu'on a eu une table ronde assez intéressante là-dessus, avec des positions un peu différentes. Donc on avait le chef Pascal Barbeau qui nous disait que, en gros, lui, dans son équipe, c'est parité absolue. Donc il recrute vraiment 50% de femmes, 50% d'hommes. Elodie Piège nous racontait qu'ils voulaient augmenter les effectifs féminins, mais ils avaient des difficultés pour recevoir des CV, en gros que 20% des CV qu'ils recevaient étaient des CV de femmes. Et puis on avait Stéphanie Okelec qui nous racontait que, en gros, l'équilibre vie perso, vie pro était un des enjeux en fait pour une femme de se lancer dans la restauration. Puis elle nous confessait qu'il fallait avoir un époux compréhensif et disponible
à la maison. Fait.
Donc c'était très intéressant. Non, moi, à titre personnel, moi j'adore la cuisine des femmes, hein, pour tout vous dire. Il y a des grands chefs femmes. Hein, donc il y a Hélène Darrow, Anne-Sophie Pic, Stéphanie Lequet. Donc il y a pléthore de grands chefs féminins. Je pense que c'est plutôt, et je pense que les chefs pourraient mieux le dire que moi, mais je pense que c'est plutôt dans les équipes, dans des niveaux en dessous où c'est plus complexe. Mais en tout cas, c'est un vrai enjeu.
La parité reste un défi. Gaëlle Aurieux.
Bah moi aussi, j'essaie de faire la parité, voilà, essayer d'avoir autant de filles que de garçons. Je trouve que ça donne un équilibre, elles apportent aussi une grande finesse et, dans la cuisine. Voilà, elles sont souvent un peu plus fines, un peu plus à l'écoute. Voilà, et je trouve que ça fait une bonne alchimie dans les cuisines. Moi, je suis très content d'avoir des filles maintenant.
Quel conseil vous voudriez donner aux voisins qui nous écoutent et qui voudraient se lancer dans la cuisine ?
Ben, je crois qu'il faut vraiment, c'est un métier qui se fait par passion, on l'a souvent dit, hein, mais je pense que soit on est fait pour ça ou soit on ne l'est pas. Et si on est fait pour ça, ben, allez-y à 400% et voilà, foncez. Et moi, les portes s'ouvrent, voilà, la chance de la vie fait aussi des fois les rencontres et tout vous ouvre des portes. Et c'est une grande force de ce métier et qui, on peut aller aussi sur plein de métiers différents.
Il y a le traiteur, justement, tout le monde ne peut pas forcément devenir grand chef, c'est aussi ce qu'il faut.
Tout le monde ne peut pas devenir grand chef, mais moi j'ai rencontré des gens passionnés qui avaient d'autres métiers, traiteurs, qui organisaient plein d'autres choses. Il y a plein de variantes dans ce métier.
Et, serveur aussi.
Serveur, voilà. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Le service est aussi très important. Et voilà, il y a des cuisines ouvertes. Maintenant aussi, les cuisiniers font le service aussi avec. Donc voilà, essayer de trouver. On peut trouver son bonheur dans ce métier et voilà, par toutes les petites portes qui peuvent s'ouvrir.
Il suffit de chercher. Merci à vous, Gaël Aurieux, Mathieu Bagur, Christian Abégan, Julien Roucheteau d'être venus sur notre plateau pour nous donner faim et puis qui sait, pour susciter des vocations. Merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins. Romain Dubrac à la réalisation, Cécile Lavolo en coulisses, Camille Nérand pour vous répondre, les voisins, Didier Chérouze. Et merci à vous, bien sûr, les voisins et les voisines, pour votre écoute fidèle, pour vos messages, pour vos appels. Demain, 7 milliards de voisins, Emmanuel Bastide revient derrière le micro pour vous parler de la jeunesse en Arabie Saoudite. Une jeunesse connectée entre combats et victoires dans un pays où les deux tiers de la population ont moins de 30 ans. Comment la jeunesse saoudienne s'émancipe-t-elle ? Et tout de suite, un nouveau journal sur la radio du Monde.